Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
On impose à nos enfants un parcours qu'ils n'ont pas choisi.
On est une génération qui connaît beaucoup dans les séries, dans la vie de tous les jours. Quand ça nous arrive, ça fait un choc et ça reste compliqué.
Est-ce que vous avez l'impression d'avoir perdu votre papa ?
Dans un sens, oui. Mon père, c'était vraiment l'image de la masculinité. C'était vraiment un cliché du bonhomme, quoi. Elle vivait sa vie de femme en société depuis déjà presque 5 ans. On voit à quel point notre parent est heureux. Et la phrase « mon père est enfin heureuse », je l'utilise tout le temps, quoi. Nous, au début, en tant qu'enfant, on a l'impression que notre parent se déguise pendant quelques temps. Et au fil des conversations et des observations, on se rend compte que le déguisement, c'est celui qui a été adopté pendant des décennies.
J'avais vraiment l'image de la maman et je suis en train de tout chambouler. J'avais vraiment peur qu'il me rejette.
Je me souviens qu'il nous avait dit que c'était quelque chose de grave qu'il avait à nous annoncer, etc.
J'ai tourné longtemps autour du pot et je pleurais. Et là, j'ai dit « je suis une personne transgenre ». Et là, ma fille m'a pris la main et m'a dit « mais c'est pas grave ça, maman ». J'ai trouvé ça extraordinaire, sa réaction.
Je m'appelle Marie, je suis la cadette d'une famille un peu plus ordinaire. Depuis toute petite, je suis proche de ma mère. On allait très souvent se promener au parc ou à la mer en famille. Même si on ne faisait pas de grandes virées shopping mère et fille, elle m'emmenait toujours à mes activités, notamment à l'équitation, et c'était un moment de complicité partagée. J'ai bien aussi de bons souvenirs en famille lors de nos vacances d'été à l'île de Ré. Mais à cette époque, je ne savais pas que derrière cette personnalité plutôt masculine se cachait la véritable identité de ma mère.
Je suis en compagnie de Marie, qu'on vient d'apercevoir à l'instant. Bonjour Marie.
Bonjour.
Et donc j'ai à côté de vous une maman en train de devenir homme qui est très émue.
Oui, assez.
Pour quelle raison ?
C'est en regardant les photos de jeunesse et puis...
Vous ressentez quoi ?
Peut-être un petit peu de nostalgie, de regarder à quel point... mes enfants doivent me considérer vraiment comme leur maman, l'image d'une maman. J'avais vraiment l'image de la maman.
Ouais.
Et je suis en train de tout chambouler.
Je vous présente nos autres invités qui ont beaucoup de choses à partager avec vous. Bonjour Florence.
Bonjour Faustine.
Merci d'être avec nous. Vous êtes avec votre fille, bonjour. Charlotte. Ça va Charlotte ?
Ça va, ça va.
Et vous avez aussi une histoire très forte. À vos côtés, Clara. Bonjour Clara.
Bonjour.
Et vous allez nous parler aujourd'hui de votre papa.
Oui.
Qui est devenu une femme.
C'est ça.
Et donc aujourd'hui, votre père, devenu femme, n'est plus là.
Non.
Et c'est important aussi de lui rendre hommage à travers votre témoignage. Je vous présente Natacha Espier, qui est psychologue, que vous connaissez bien dans notre émission et qui va essayer de vous accompagner au mieux et peut-être de répondre à certaines de vos questions. Comment ça s'est passé ? Est-ce que vous aviez déjà toujours senti, Marie, que votre maman était différente, où il y avait quelque chose qui n'était pas très aligné ?
Plus ou moins, on a... Par exemple, par rapport à ses passions ou ses goûts, on a, bon, ça ne veut rien dire, mais c'était des activités qui étaient ou des passions qui étaient codées un petit peu pour les hommes, etc.
Ouais.
Donc, direct de ce côté-là, oui, il y avait toujours eu un petit et puis jamais été très féminin non plus.
D'accord. Vous vous souvenez de la date exacte où votre vie a été complètement chamboulée ou a pris un vrai nouveau virage?
C'était en septembre 2021, mais la date exacte...
Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, comment vous avez parlé à votre fille, à vos enfants ?
Oui, j'ai pris mes enfants à part ensemble. J'ai décidé de leur dire ensemble, parce que je me suis dit que ça serait peut-être un petit peu difficile pour l'un de garder le secret pour l'autre, surtout qu'ils sont super proches.
Vous avez appréhendé ? Vous avez eu peur ?
Extrêmement peur. J'avais peur qu'ils me rejettent, malgré leur tolérance, malgré leur jeunesse, et puis... Ouais. Voilà, j'avais vraiment peur qu'il me rejette.
Il y a un papa dans
Non, le papa, je voulais lui dire après.
À mais pas. Vous étiez toujours en couple avec lui ?
Oui, je suis toujours.
Ah, vous êtes toujours en couple avec lui, d'accord.
Oui, toujours en couple, encore. Et là, j'ai dit, je crois que je suis une personne transgenre. Et en fait, je me suis dit, je suis une personne transgenre. Et là, ma fille m'a pris la main et m'a dit « Mais c'est pas grave, ça, maman. » Et j'ai trouvé ça extraordinaire, sa réaction. Je ne m'attendais pas du tout à une réaction telle
cette
que celle-là.
Validation
avec cette chaleur
immédiate.
Et cet amour, en fait. Voilà.
Vous aviez déjà entendu parler de la transidentité, Marie ?
Oui, j'ai été assez familière et plongée dans la communauté LGBT donc, depuis à l'époque 3 ans à peu près. Et donc, ouais, vraiment, c'était... quand il en a parlé, je savais à quoi il faisait référence, etc. Donc oui, j'ai tout de suite compris.
Une fois que vous avez été soulagée, Marie, de vous dire que finalement, votre mère n'était pas malade, qu'il n'y avait rien de grave, quelles ont été les premières questions qui se sont posées ?
Depuis quand est-ce qu'il savait ou depuis quand est-ce que... ouais, c'était vraiment par rapport à la durée, si c'était récent qu'il l'avait... qui s'en était peut-être rendu compte vraiment avec les mots exacts de transgenre ou ce genre de choses-là.
Alors justement, je vous pose la question, ça fait combien de temps que vous sentiez-vous que vous n'étiez pas dans le bon corps ?
Alors, pas dans le bon corps, c'est pas évident.
Non, vous n'étiez pas... Oui, alors dites-moi.
Parce qu'en fait, enfant, moi je reste persuadée que j'aurais dû naître un garçon. Ça, c'est une évidence pour moi, parce que j'ai, dans ma personnalité, dans mes goûts, dans mes relations avec les autres, pour moi, j'aurais dû être un garçon. Quand j'étais petit, je me souviens très bien penser, ressembler à mon papa plus tard, etc.
Vous nous dites le prénom là, que vous portiez à l'époque ?
Bah oui, c'est Sandrine. C'est mon prénom civil.
D'accord. Donc, vous, encore aujourd'hui, mais ça peut changer.
Encore aujourd'hui. C'est pour ça que je le dis. Parce que beaucoup de gens me connaissent encore sous ce prénom-là.
Donc, à l'époque, vous étiez Sandrine et vous sentiez que vous auriez dû être un garçon.
Oui. Moi, dans ma tête, je ne réfléchissais pas si j'étais un garçon ou une fille. C'est juste que j'étais moi. Et c'est vrai que j'étais à 1000 années-lumière des filles.
Oui,
je ne ressemblais pas aux filles. Et je voulais jouer avec les garçons. Et je jouais aux voitures. Je voulais conduire des bus.
Parce que là, ça pouvait être garçon manqué.
Après, exactement, j'étais le garçon manqué. Mais mes copines, vraiment amies, c'était toujours des garçons manqués, par exemple. Ouais. Parce que les garçons... me rejetait. J'étais pas une fille donc féminine, donc ça ne s'intéressait pas à moi, et j'étais pas un garçon, donc je pouvais pas aller jouer avec eux.
À quel moment ce décalage s'est fait le plus ressentir ?
Alors ensuite, à la puberté, je l'ai très très mal vécu, mais sans avoir conscience en fait que, enfin, c'est mon souvenir aussi, hein. J'ai 49 ans, donc il y a des choses aussi que j'ai peut-être oubliées. Mais l'adolescence, la puberté a été très, très dure à vivre. Mais je ne sais pas si j'avais vraiment conscience que c'est parce que j'avais un corps féminin. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée.
Alors, à quel moment ce corps a fini vraiment par vous déranger, vous ?
Alors, il m'a dérangé toute ma vie.
D'accord.
Ma poitrine, etc. me dérangeait. Mais ça faisait partie de ma vie, ça faisait partie de mon mal-être. Je me disais, c'est comme ça. Voilà. Et ensuite...
À cette époque-là, vous n'aviez pas entendu parler de la transidentité ou vous la rejetiez l'idée ? Non, ce n'était pas du tout, on n'en parlait pas du tout. Il n'y avait pas Internet.
On ne savait pas, on essayait avec un corps de fille, on était une fille, on essayait avec un corps de garçon, on était un garçon.
Point barre.
C'était pas
il y a quelques exemples, mais on n'en parlait quasiment pas.
Non, c'est bien plus tard que j'ai entendu un tout petit peu parler, mais très très peu.
Donc vous avez dû vous accommoder ?
Ah bah oui.
Et vous étiez attirée par les garçons ou par les filles ?
Pas du tout, par les filles. À la base, je suis attirée par les filles.
D'accord. Et pourtant, vous êtes tombée amoureuse d'un homme ?
Oui. Alors, en fait, tout simplement, vers l'âge de 11-12 ans, après ma deuxième expérience de flirt avec une fille, qui a été assez, je dirais pas, ça c'est pas traumatisante, c'est pas le bon
raté.
Terme, parce que raté, oui, parce que oui, ça a été une catastrophe. voilà. En fait, je me suis souvenue, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, pourquoi m'avait perturbé toute ma vie cette relation précise.
Et pourquoi ?
C'est parce que je m'étais sentie un garçon et je m'étais sentie excellemment bien cet après-midi-là avec cette fille. Parce que j'avais l'impression d'être un garçon.
La première fois. Catastrophe alors, ça peut être.
Oui, non, mais sa maman est rentrée dans la chambre. Etc.
Ah oui, c'était une catastrophe pour des raisons différentes.
Renvoyée de chez elle, etc.
Ah oui,
c'était l'horreur. Et ce jour-là, ou le lendemain, je me souviens plus, j'ai voulu en parler à ma mère parce que là, j'ai dit quand même, ça fait quand même 2 fois que je sors avec des filles et patati patala, et il y avait cette histoire de se sentir un garçon. Je lui avais déjà parlé que je comprenais pas pourquoi moi, je ressemblais pas aux autres garçons. Voilà.
Comment elle a réagi, votre mère ?
Et bah, elle a réagi comme beaucoup, je crois, à cette époque, quand leur fille leur annonce souvent leur homosexualité. C'est « Mais non, mais t'inquiète pas, c'est normal à ton âge d'expérimenter, etc. » Tout va revenir à la normale, tu vas aimer les garçons et tout va rentrer dans l'ordre. Mmh. Et j'ai voulu insister, mais j'ai senti qu'elle était assez fermée. Et j'ai refoulé tellement bien qu'en fait, je commençais à sortir avec des garçons pour montrer aux autres et même à mes amis, regardez, vous voyez, hein, je ne suis pas lesbienne. Hein,
et je ne suis pas comme les autres, je suis comme les autres.
Voilà, je m'intéresse aux garçons, je sors avec des garçons, je couche avec des garçons. Et j'ai même eu une vie jusqu'à un certain âge très hypersexualisée, quoi, je veux dire.
Et vous avez rencontré le père de Marie ?
Oui, alors ça, je le connais depuis que j'étais très jeune et je l'aimais à chaque fois que je le voyais, ce garçon. Je ne sais pas pourquoi.
Donc il y a de l'amour, c'est un mariage d'amour.
Oui, 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 ah oui. Et quand il a été célibataire, donc j'avais 27 ans, j'ai tout fait pour... je me suis bien, j'ai sorti...
Le grand jeu.
Ah, j'ai sorti le grand jeu, hein. Jupe fendue.
Et là, vous vous sentiez comment de devoir justement vous hypersexualiser alors
j'avais
vous...
l'habitude. Oui. J'avais l'habitude.
Donc vous n'en souffriez pas, mais vous vous déguisiez un peu.
Oui, je me déguisais, ça, c'est sûr. Hein. Je faisais exprès, parce que moi, ce n'était pas mon habitude. Moi, j'étais pantalon, t-shirt. Moi, il n'y avait pas de maquillage, il n'y avait pas les ongles, il n'y avait pas tout ça. Moi, ça me plaisait pas. Mmh. Mais... Quand il le fallait, je savais le faire. Je le faisais. Pour
vous avez vécu comment d'être enceinte ?
Très bien. Mais
j'adore les lunettes.
Oui, bon.
Bébé, c'est vous, Marie ?
Incognito. Oui.
Ouais, c'est ça. Bébé star déjà.
Voilà, bébé star.
Donc, vous avez aimé cette maternité ?
Oui. Alors c'est pas mon corps ni quoi que ce soit que j'ai aimé. C'est la maternité, c'est d'attendre mes enfants parce que je les ai désirés vraiment.
Alors une fois que ils sont arrivés, vos deux enfants. À quel moment ce mal-être est ressorti ? Enfin, ce mal-être. Oui, ce mal-être est ressorti.
Mais il ressortait régulièrement, en fait. Enfin, moi, c'était tout le temps, c'était tous les jours qu'il y avait des choses dans mon corps, ma sexualité, etc. Elle était comme ça, sans sensation, sans rien.
Pourtant, vous restiez féminine. Vous auriez pu être une... déjà, vous coupez les cheveux, essayer d'être de plus en plus masculine
oui,
en restant
Sandrine. J'ai même voulu, à une époque, conduire des camions aussi. Je voulais être routier. Mais j'ai eu peur parce que, alors, je ne sais pas, c'était des fantômes du passé peut-être, mais j'ai eu peur de ressembler à une femme masculine. Je ne voulais pas ressembler à une femme masculine. Je ne voulais pas qu'on m'assimile à une femme masculine. Je n'ai rien contre les femmes masculines, puisque en plus je suis tombée amoureuse plein de fois de femmes masculines. Ça, c'était juste avant de chercher du travail, là,
alors...
très récemment.
Alors, expliquez-moi le virage. C'était il y a combien de temps, ce moment ?
Il y a un an.
Il y a un an.
Il y a quasiment un an. Oui, il y a un peu plus d'un an. C'était en juillet 2021.
Qu'est-ce qui s'est passé pour vous avant même de l'annoncer à vos enfants ?
Ben, comme d'habitude, j'allais mal. Je n'arrivais plus à me lever de la journée, du tout.
Du tout.
Plus rien faire. Et il y avait ce terme qui est le mot queer. Je dis, tiens, ça veut dire quoi, queer ? Et je suis allée voir les définitions. Et là, en 2021, bah, ce n'était pas comme dans les années 80 ou 90.
On sait ce que c'est.
Il y a plein de définitions, il y a plein d'associations, plein de sites Internet. Et là, j'ai vu des tas de définitions d'orientation et d'identité, de genre, etc. Et là, je me suis dit, ah, mais alors là, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, je vais enfin savoir qui je suis. Parce que là, c'est quand même le bazar depuis 48 ans, c'est le bazar.
Vous êtes reconnue, en fait.
Et en fait, donc j'ai regardé les définitions. Au départ, je me suis dit, je dois être non-binaire, alors ça doit être ça. Masculin, féminin, ça doit être ça. Et en fin de compte, c'est en regardant déjà la définition de transgenre, ça me parle beaucoup. Et j'ai regardé un témoignage, deux témoignages, des petites phrases, des petites choses. Je me suis dit, mais c'est moi.
Est-ce que vous avez... Vous êtes renseignée sur une transition à venir avant d'en parler avec vos enfants ou ça a été la première étape d'en parler à vos enfants ou vous avez fait un cheminement déjà ?
Non, c'était moi déjà. Ma décision, elle était prise. Elle a été prise de suite parce qu'en fait, j'ai pas pu faire autrement. C'était une question de vie ou de mort presque. J'ai eu l'impression. Je pouvais pas faire autrement. Je pouvais plus vivre. Dans ma tête, je me disais, je suis dans un état de non-vie. Je vivais, je survivais juste. Je me lavais, je mangeais juste pour mes enfants, parce que je voulais les voir grandir. Mais sinon, j'avais aucune raison de vivre. Donc,
Vous vous rendiez compte, Samarie, de l'état de détresse de votre mère ?
Oui et non. C'est-à-dire que ça a toujours été un petit peu... Enfin, on sentait qu'il y avait peut-être quelque chose qui n'allait pas, mais on ne pensait pas que c'était aussi, aussi profond, aussi important. Et puis, on se disait peut-être que aussi, il le cachait assez bien. C'est on ne s'en rendait pas réellement compte. Non, c'était...
J'ai un tempérament très enjoué. Je vois toujours
c'est vrai,
le positif.
C'est vrai, ça se ressent.
Toujours, ouais. Donc, ça m'a aidée.
Pourquoi avoir choisi ce prénom Cyril? Cyril de Zelle.
Oh, de Zelle. Ah, ça, c'est un petit clin d'œil. Ouais.
Non, parce que vous auriez pu vous appeler Quentin, Kevin, ce que vous voulez. Mais là, ça embrouille. Tu l'embrouilles un peu.
Alors, Cyril, parce que c'est, normalement, c'est mon vrai prénom. Mes parents, c'est surtout ma maman, je crois qu'ils l'avaient choisi, avaient choisi Cyril. Et ils attendaient, pour eux, dans leur tête, ils attendaient un garçon. Point. Ils n'avaient même pas réfléchi à un prénom de fille. Puis je suis arrivée.
C'est bien, c'est aussi le choix de vos parents, du coup. Il y a un
truc c'est le choix de mes parents, ouais. Oui, tout à fait.
Alors, Cyril, vous avez commencé quand votre transition et par quoi vous avez commencé?
Alors, j'ai commencé par prendre rendez-vous chez un psychiatre qui est quand même habitué aux personnes transgenres.
Oui, il faut valider tout ça, évidemment. Éviter, on ne fait pas du jour au lendemain, c'est important de le dire.
Oui. Ah bah oui, sinon, pour l'instant, a priori, je crois qu'on ne peut pas faire autrement. Parce que de toute façon, j'ai décidé d'entrer, je voulais de la testostérone absolument. Donc, d'abord, je suis passée par un psychiatre qui a attesté de ma dysphorie de genre. Et également, qui a attesté aussi que je n'avais pas une maladie psychiatrique qui pouvait expliquer quand même certaines choses. Enfin, voilà, écarté surtout. Et je crois que j'ai pris 2 ou 3 rendez-vous parce qu'en fait, il m'a expliqué aussi qu'à mon âge et avec mon parcours de vie, je savais quand même à peu près qui j'étais quand même à 48 ans. J'avais assez réfléchi à la question quand même. Et donc, là, j'ai eu une attestation qui m'a permis de rencontrer un endocrinologue pour avoir la prescription de testostérone d'hormone mâle.
Tout ça, vous l'avez vécu tout seul?
Moi, de toute façon, ça fait longtemps que je suis seule, entourée de gens. Hein. Oui, seule. De toute façon, je me connais, je peux déplacer des montagnes.
Mais vous avez vu à ce moment-là, Marie, votre mère changer?
Pas vraiment.
Pas plus que ça, ouais.
Non, il me semble pas.
Pas encore, parce qu'en fait, j'ai cherché du travail. Je travaille depuis août 2021, parce que je n'ai pas travaillé pendant 20 ans. Il a fallu que je trouve du travail, parce que j'avais un peu peur de ce qui allait m'arriver, de me retrouver dehors ou quoi que ce soit. Ah. Donc, je voulais un emploi, absolument. J'ai commencé à travailler en août. En septembre, j'ai fait mon coming out auprès de mes enfants. En octobre, auprès du papa.
Et lui a accepté? Bon, il n'avait pas le choix, mais il continue à vous aimer.
Il n'avait pas le choix, oui.
Mais il continue à vous aimer et vous restez...
Le soir même, ouais, en tout cas, j'ai même été extrêmement surpris de savoir qu'on pouvait m'aimer à ce point-là. Je pensais pas qu'on m'aimait comme ça.
Donc vous restez, il vous genre au masculin?
Pas du tout.
Donc vous restez sa femme?
Oui.
Mais c'est difficile pour vous de devenir un homme et qu'il continue à vous...
Ah bah oui, je sais pas ce que l'avenir me dira. Pour l'instant, c'est très dur pour lui, ce que je peux... Ça fait comprendre. Mais...
C'est-à-dire votre couple ne sera pérenne que si à un moment il accepte que Sandrine est devenue sienne?
Ah bah je pense, oui. Je ne vois pas autrement. Je ne veux plus mentir. C'est fini, c'est terminé. Je ne veux plus.
Tout le monde sait aujourd'hui à votre travail? Tout le monde est au courant?
Non, pas au travail.
Donc on continue à vous genrer au féminin au travail?
Tout à fait. C'est difficile, mais bon, ils vont le savoir.
Ils vont le savoir, oui, c'est sûr. Là, ils vont bien le savoir.
Je sais qu'ils me voient changer, hein, ça, c'est clair. Je pense qu'on parle beaucoup derrière mon dos aussi. Mais bon, c'est pas grave, on verra bien. Et puis, on verra après l'émission s'il y a des gens qui auront vu l'émission et puis qui vont me parler. Mais c'est vrai que mon employeur, oui, j'ai prévu quand même de le mettre au courant à un moment donné et surtout de le rassurer. Parce qu'en fin de compte, ça ne va pas changer grand-chose à mon travail.
C'est compliqué, Marie, d'entendre parler de l'intimité de sa maman-homme?
Un petit peu, mais c'est plus dans le sens où on en parlait juste pas avant. Du coup, là, ça fait un changement, puisque là, c'est vrai que c'est... du coup, il m'en parle, parce que c'est important, etc. Mais du coup, ça va...
Donc vous êtes plus complice maintenant?
Oui, plutôt oui.
Parce qu'il y a cette authenticité, cette vérité entre vous. Mmh. Parce que c'est ça qui est compliqué pour les enfants, c'est qu'on bascule dans la sexualité de ses parents?
Oui, un peu. Alors, il ne faut pas confondre...
bien sûr, identité et sexualité, vous avez raison.
Ce n'est pas du tout la
même chose.
Vous avez raison. Mais oui, il faut appeler un chat hein, quand même. On parle des organes sexuels des parents. Et ça, ça peut être gênant pour les enfants. Pardon, on entend que Marie, finalement, vous êtes aussi familière de cet univers. Et puis, on entend cette grande complicité entre vous. Mais il n'en reste pas moins que c'est un sujet dont les enfants ont rarement envie d'entendre parler, hein, de toute façon.
Moi, c'est vraiment un truc qui m'a gênée pour le coup, même si j'acceptais très bien la transidentité de mon père. C'est quand je commençais à entendre parler de vaginoplastie.
C'est pour ça que je me posais la question au moment où vous parlez de ça, tout d'un coup.
En fait, ça fait tomber la barrière parent-enfant,
c'est ça.
Qui devrait rester quel que soit le changement du parent.
Ça fait rentrer beaucoup trop dans l'intimité du parent.
C'est ça.
Et dans
parce que ça sous-entend la sexualité quand on parle d'organes.
Ça sous-entend la sexualité.
C'est pas parce qu'on lui dit qu'on ne veut pas entendre parler de ça précisément qu'on rejette la
transidentité. Exactement, vous avez tout à fait raison, c'est pas la même chose.
Et ça, c'est le truc sur lequel on a eu du mal à se comprendre.
Oui.
Et là, on est d'accord, en fait, c'est pas maman qui est devenue papa, c'est maman est restée maman, mais est devenue un homme.
Oui. Son papa c'est difficile. Restera son papa.
Oui. C'est difficile d'en parler à l'extérieur, Marie ?
Non, ça va.
Charlotte, Florence, pourquoi vous avez eu envie de venir, vous ? Quel message vous êtes venue nous délivrer ?
Moi, le thème déjà de l'émission, justement, dans ce sens des enfants, parents trans, on n'en parle jamais.
Jamais, vous avez raison.
Le terme des enfants transidentitaires, transgenres, est très souvent évoqué, voire même un sujet à polémique. Mais dans ce sens-là, jamais. Donc quand j'ai eu connaissance du thème de l'émission, je trouvais que c'était important de venir témoigner. Et parce que on impose à nos enfants un parcours qu'ils n'ont pas choisi. Donc il y a cette épreuve qu'on leur...
Donc il y a la culpabilité ?
Non, il n'y a pas de culpabilité. La culpabilité, j'avais peur de leur imposer ça au départ. Je ne l'ai plus aujourd'hui, je suis apaisé par rapport à ça. Mais c'est vraiment le fait de dire que ça peut... bien se passer, même si ça reste difficile, mais de venir témoigner parce que je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui peuvent être dans le rejet et que on a cette chance partagée avec Cyril et je pense avec ton papa aussi d'avoir des enfants qui sont dans la compréhension,
l'amour.
Ça reste difficile pour eux, mais voilà, je pense que c'est important d'en parler aussi pour nos familles également. Au-delà de nos propres enfants. Car bien souvent, nous-mêmes avons des parents qui redoutent l'effet que peut avoir notre transition sur nos enfants, sur leurs petits-enfants.
Oui, je comprends. Est-ce que, Charlotte, vous le vivez comme Marie, sereinement, ou c'est plus compliqué que ça ?
Pour moi, c'est plus compliqué. J'avais déjà des relations compliquées avant, mais c'est vrai que même si j'ai accepté parce qu'on est une génération qui connaît beaucoup dans les séries, dans la vie de tous les jours, on le voit. C'est vrai que quand ça nous arrive, fait un choc et ça reste compliqué.
Est-ce que vous avez l'impression d'avoir perdu votre papa ?
Dans un sens, oui. Parce que moi, quand on me l'a annoncé, on m'a dit il va y avoir un changement physique. Je le savais, je le connaissais. Enfin, quand on parle de transidentité, on le sait. Mais c'est vrai que par derrière, y a quand même un changement dans la mentalité. Avec les hormones, avec tout ça.
C'est-à-dire changement dans la mentalité avec les hormones. C'est-à-dire que qu'est-ce que Florence est plus que votre père n'était pas ?
En fait, c'est un tout qui fait qu'on en est arrivé là. Mais c'est vrai que, par exemple, on s'est embrouillé il y a 2 jours.
Pourquoi ?
À cause d'une histoire vraiment bête, mais en fait, c'est vrai qu'en reparlant aussi de tout ça, il y a plein de choses qui sont revenues, mais c'est une histoire un peu bête et j'ai trouvé que mon père pensait un peu qu'à elle. Et du coup, j'ai trouvé ça un peu compliqué, mais j'avais l'impression de me revoir adolescente il y a 3 ans.
Ah oui, parce que finalement, vous êtes peut-être en pleine crise d'ado parce que vous n'avez pas grandi femme. Donc peut-être que vous êtes jeune femme, finalement.
Oui, oui, comme a dit mon endocrinologue, la première fois que je l'ai vue, il m'a dit que j'allais faire une puberté à l'âge de la ménopause.
J'adore cette phrase.
Et, mais au-delà de la puberté, il y a effectivement... Une part, je pense, en moi d'adolescente aujourd'hui.
Oui, qui a besoin de s'exprimer.
Qui a besoin de s'exprimer. Oui. Moi, j'ai coupé ce désir d'être une femme vers mes 16-17 ans. Et donc, je crois que je revis ça, oui. Avec 40 ans de décalage. Oui. Et effectivement, je fais subir à mes enfants une adolescente à la maison.
Bien sûr, ouais, je comprends. Comment vous l'appelez votre... Parce qu'il y a toujours une hésitation hein, quand vous retournez vers Florence. Oui. Mon père, on sent que ce n'est pas encore très fluide. Vous l'appelez comment déjà, votre père?
Ben, moi, je continue à l'appeler papa. Surtout papa, avec, avec mon frère ou avec mes amis. Ça reste papa, mon père. C'est vrai que je ne vis plus à la maison. Du coup, comme on n'a pas la vision de tous les jours, on ne se parle pas tous les jours, c'est compliqué de s'habituer.
Donc papa, mais genré au féminin? Vous arrivez à genrer votre père au féminin?
J'essaye. Des fois, dans la discussion, je le genre au masculin et tout de suite dans ma tête, ça dit non, Charlotte, c'est le féminin. Mais c'est vrai que l'intuition le fait encore au masculin. Après, c'est vrai que quand on a discuté de changer de nom, enfin papa... j'avais pas d'idée. J'ai dit, si tu veux, je peux t'appeler Florence. Mais pour moi, il y a papa et Florence.
C'est deux personnes différentes.
Et c'est deux personnes différentes.
Vous, ça s'est passé comment, vous, la révélation? Il y a eu aussi, attention, il y a quelque chose de grave. Oh là, pourquoi? Je touche à un point sensible?
Pas du tout. En fait, c'est pas du tout probable.
Florence avant, donc. Hein?
Exactement. Oh. C'est pendant le confinement. j'étais sur Instagram.
Oui.
Et j'ai des suggestions de comptes et je tombe sur un compte qui s'appelle Florence avec une photo de mon papa et une perruque.
Oh, vous reconnaissez immédiatement votre père ?
Je reconnais ma salle de bain et mon père.
Oh.
Oula, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et directement, je clique sur cette page parce que quand même...
Bah oui, là, je comprends.
Ça me concerne un peu. Et je vois un lien de blog. Je lis le blog et directement, l'histoire de mon père.
Il y a quand même un acte manqué parce que, évidemment, quand vous écrivez ce blog, vous vous doutez bien que votre fille va tomber dessus, quoi.
Je crée mon blog sous le nom de Flo de France. Je crée une adresse mail sans mon nom de famille. Je crée ce compte Instagram avec une photo prise de loin de moi en femme, effectivement. 24 avril. Et le 26 avril, Instagram me suggère pour la sécurité de rentrer mon numéro de téléphone pour la sécurité à double facteur, machin, etc. Je trouve ça génial de sécuriser, justement, pour que mes enfants ne risquent pas de tomber dessus. Et qui... voilà. Et sauf qu'avec le numéro de téléphone...
Ils ont fait le lien.
C'est dans la, c'est dans la base. Voilà. Et ils ont fait le lien.
Et donc, ils ont proposé... C'est fou. Mais vous avez immédiatement été confronté votre père?
Pas du tout. J'étais avec mon petit frère. Et du coup, j'ai immédiatement été voir mon petit frère qui, en plein confinement, avec aucune date de fin de confinement, m'a dit « Mais allons en parler à toute la famille
!» Ah ouais ?
On était 13. Et dans le blog, ma belle-mère n'était pas au courant. Du coup, j'ai dit « C'est hors de question. On ne peut pas sortir de la maison. On ne peut pas annoncer ça comme ça. On ne peut pas. C'est pas possible. » Et du coup, c'est resté quelque chose de... caché, enfin, entre nous, en fait. C'est
votre secret à tous les deux, ce qui est lourd à porter. Vous auriez pu vous en douter.
Absolument pas.
Vous n'aviez pas ressenti que votre père pouvait... Rien du tout, quoi. Genre, vraiment, c'était à des millénaires
non,
de
je suis
vous.
Pas tombée de cet étage, parce que j'ai pas... Mais j'étais vraiment... pour moi, c'était la représentation masculine.
Pareil. Alors, vous nous avez confié cette vidéo où on va comprendre néanmoins... que sous le ton de la blague, le sujet était déjà un peu sorti entre vous. Regardez.
Ça, c'est moi. C'est quoi ça, ce look Arrête.
Voilà.
C'est quoi ça? C'est toi? C'est un mix de toi et moi?
Non, c'est toi en femme.
Non.
Tu serais trop laide.
C'est trop laide.
T'es trop laide. T'es trop laide. On dirait une vieille bibliothécaire. Une vieille fille. Arrête!
J'adore! On dirait une vieille bibliothécaire! Ça, c'est, alors, ça, c'est hyper drôle, hyper drôle.
Et on n'a pas la suite, parce que Charlotte me fait... je filme, et là, je me retourne. Et donc, la transformation s'arrête. Hein? Je redeviens moi. Hein? Et je lui fais, tu déconnes.
Mais vous ressemblez... Vous saviez à ce moment-là. Oui. Donc, quand vous vous voyez en femme, vous faites le clown, là. Mais vous savez qu'il y a une vérité en vous.
À l'époque, je n'avais pas encore décidé. Ma transition, c'était six mois, un an avant, peut-être. En fait, moi, la décision de la transition, c'est pendant le confinement. J'ai eu du temps à moi. Et donc, j'ai découvert... j'ai pas la télé depuis 10 ans. Donc, toutes les émissions, etc., je suis passé complètement à côté. Et c'est quelque chose que j'avais mis sous le tapis... À l'âge de 17 ans. Donc, c'était revenu depuis quelques années de façon, j'allais dire, progressive.
Latente, oui.
Voilà, mais totalement caché.
Oui, c'est ça.
Et le confinement m'a permis de découvrir qu'aujourd'hui, c'était possible. Et à la fin du confinement, donc 24 avril, je crée mon identité... Florence, 26 avril.
Ça va vite hein, pour vous. C'est-à-dire que vous n'avez même pas eu le temps vous-même de vous approprier Florence. Même si ça faisait quand même des années qu'elle était en vous.
Oui, voilà.
Mais néanmoins. Et alors, deux jours après, vous le découvrez. Vous gardez ça avec votre frère. À quel moment, quand même, la discussion avec votre père va avoir lieu?
Du coup, environ un mois après, vers le 20 juin, 14 juin,
15 juin.
Quelque chose comme ça. Et en fait, du coup, je suis à la maison et j'allais rentrer chez moi à Paris. Et là, je vois mon père qui m'annonce que j'étais toute seule. Et donc voilà, qui me dit, il faut que je t'annonce quelque chose. Assis-toi, reste pas debout. C'est quelque chose de...
d'important.
T'es pas prête. Et en fait, je vois que mon père n'est pas prêt non plus à me l'annoncer. Ça veut dire qu'on se regarde et que, voilà, en fait, je... Et du coup, je regarde et je dis, mais... Tu m'as dit que j'avais dit. Je dis, mais j'ai vu Instagram. Je l'ai vu, je le sais. Et du coup, j'ai vu un soulagement parce que il avait pas à m'expliquer. C'était plus... Je le savais. C'était juste la concrétisation. C'est la réalité.
Pourquoi vous êtes émue, là, Florence ? L'amour.
Parce que c'est un moment difficile d'annoncer à ses enfants que leur papa, d'autant plus que mes enfants ont perdu leur maman.
C'est la donnée importante
donc,
aussi.
Je ne voulais absolument pas la remplacer.
Vous ne vouliez pas devenir maman?
Non.
Vous êtes toujours papa et leur mère est décédée.
Mais voilà, mais c'est un moment. Et de comprendre en plus de ça que mes enfants avaient découvert cette vérité... parce que voilà, j'avais laissé cette trace numérique. Charlotte, avec beaucoup de délicatesse, j'étais avec ma compagne et Charlotte arrive en disant, mais je crois savoir ce dont tu vas me parler. En moi, je pense.
Il y a des mouchoirs partout derrière les coussins. À votre gauche, Florence, votre main gauche, vous allez trouver des
gauche,
mouchoirs
oui, voilà,
derrière. Ça. Voilà, exactement. Merci.
Et Charlotte dire « je crois savoir ce dont tu vas me parler ». Et je pense, mais ma cocotte, t'es à des lieux. Elle savait déjà. Et quand elle dit « j'ai été sur Instagram », elle a eu cette délicatesse. J'étais avec ma compagne. Et elle a eu
Qui est toujours votre compagne ?
Qui est toujours ma compagne, on est en train de se séparer. Et qui, avec beaucoup de délicatesse, Charlotte répond, j'ai été sur Instagram, parce que sur
le blog.
Instagram, après, ça renvoyait sur je ne sais plus quel Flickr ou un truc comme ça. Je disais que ma compagne et mes enfants n'étaient pas au courant et qu'il fallait que je leur en parle avant de...
Donc c'était délicat de dire ça, sais, mais peut-être que...
Et Charlotte a eu cette délicatesse... Ne sachant
vous prévenir,
pas de quoi je voulais lui parler, dire j'ai été sur Instagram. Et là, j'ai compris qu'elle savait, le monde s'était coupé.
Là, quand je vous regarde depuis tout à l'heure, je trouve qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de complicité. Même quand vous dites des choses qui ne sont pas faciles à entendre pour l'autre, vous vous regardez avec beaucoup d'amour. Pourtant, vous avez commencé, Charlotte, par me dire « ça n'est pas facile ». Pourquoi ? Qu'est-ce qui est difficile pour vous ? Alors, je ne sous-entends pas que ça doit être facile, mais néanmoins, qu'est-ce qui aujourd'hui continue à vous heurter ? Est-ce que c'est une forme de deuil de votre père qui continue, vous qui avez déjà perdu votre mère, qui est difficile ? Qu'est-ce qui est encore compliqué pour vous ?
Par exemple, quand je l'ai appris, donc après, je suis rentrée chez moi et c'est vrai que j'ai eu l'impression en fait que j'allais perdre mon papa.
Ouais.
J'ai dû faire le deuil de ma mère qui est toujours pas fait aujourd'hui. Je sais pas si j'arriverai à le faire complètement.
On fait pas le deuil de sa mère.
C'est pas possible. Et en fait, du coup, j'ai perdu un repère qui était mon pilier dans la vie. Et mon deuxième pilier, il est en train de s'écrouler. Ouais. Je sais pas qui j'allais trouver après. Ça allait plus être mon papa. Je sais pas qui j'allais retrouver après. Et du coup, c'est vrai que.
C'est que vous êtes nostalgique parfois aujourd'hui de votre père ?
Je suis nostalgique. Pas forcément de mon père, mais de la complicité de la vie qu'on avait avant, ça c'est sûr. Mais qu'on avait déjà perdu avant tous ces changements. Mais c'est vrai que la vie qu'on avait avant, mon père, en fait, avoir cette relation père-fille qu'on ne pourra plus avoir,
Mais vous avez peut-être une autre relation, une autre complicité, notamment peut-être autour de la féminité.
Je pense qu'on pourra en avoir une, mais que je ne suis pas encore prête
à aller faire les boutiques ensemble.
Au début, j'étais absolument pas prête à aller faire les boutiques ensemble, ça c'est sûr. J'ai tout de suite dit, je veux pas faire les magasins avec toi.
C'est un des premiers trucs que tu m'as dit.
Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, s'il fallait aller faire les magasins, je pourrais aller faire les magasins parce que j'aimerais bien te relooker un petit peu.
Pourquoi vous aimez pas ? Vous aimez pas comment Florence est habillée ?
Je trouve que ça fait trop vieux. T'es pas grand-mère. T'es pas grand-mère encore, tu veux.
Et Florence, vous seriez ouverte à l'idée qu'elle vous relouque un peu ?
Ah oui, absolument.
Je pense qu'on s'embrouillerait dans les magasins, on ne serait pas d'accord.
C'est qu'une question
de goût. Ouais. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a des choses qui viendront peut-être en grandissant,
avec du temps,
avec des étapes dans ma vie. Mais c'est vrai que ça reste compliqué, pareil, des choses plus de femmes dont j'aurais plus parlé avec ma maman.
Bah oui, c'est ça. C'est que ça souligne l'absence de la mère.
Bien sûr, ça vient souligner plein de choses. Ça vient souligner d'abord que vous n'êtes pas sur le même temps. Oui. Parce que finalement, vous, c'est l'aboutissement de quelque chose. C'est l'aboutissement d'une réflexion, d'une souffrance. Oui. Et vous trouvez la solution à cette souffrance. Donc voilà, le temps, il est à ce moment-là. Alors que vous, il va falloir avancer. Vous n'êtes pas du tout là. Il faut comprendre ce qui se passe. Vous l'avez dit.
Il n'y a pas de soulagement.
Il n'y a pas de soulagement. Il y a un choc. Il faut bien le dire, il y a un choc. Ça ne veut pas dire qu'on n'accepte pas, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Ça veut dire qu'il faut effectivement faire le deuil de ce père. Alors, je pense qu'il faut un peu de temps pour trouver le lien parental et comprendre que ce n'est pas en rapport avec la sexualité ou l'identité sexuelle. C'est mieux l'identité sexuelle que la sexualité. C'est-à-dire que le lien parental, il est toujours là. Vous savez que vous pouvez compter sur votre père quand même. Ce lien, même si il ou elle a changé de sexe, je fais comme vous, Faustine. Mais le lien parental est là et c'est sur ça qu'il faut vous appuyer pour toutes les deux d'ailleurs et toutes les trois. Ouais. Mais il faut un peu de temps pour pouvoir s'approprier cette nouvelle identité et établir une nouvelle complicité, au fond, parce que ça ne peut plus être celle d'avant.
Mais elle est réelle et le lien est toujours là.
Voilà.
Cyril.
Oui, je voulais rebondir, parce que ça me fait penser en fait, à la réaction de mon fils, qui a 20 ans, qui n'est pas, qui a pas pu être là aujourd'hui, mais qui aurait bien aimé. Lui, il n'a pas réagi vraiment de la même façon que Marie. Pour lui, le LGBT, transidentité, il ne sait pas trop, il ne connaissait pas. Et en fait, le soir, il l'a très bien pris. Il a dit, très bien, ça ne pose pas de problème. Il voulait juste savoir ce qui allait se passer, qu'on lui explique, parce qu'il ne connaissait rien du tout au problème transgenre. OK. Et en fait, dans la semaine, on n'a jamais parlé. Et plusieurs fois, je suis allée le voir en lui disant, est-ce que ça va ? Je m'inquiétais un petit peu. Je trouvais silencieux, je trouvais ça étrange. Et une semaine après, il est venu me voir, c'est lui qui est venu me voir. Il m'a fait, j'ai réfléchi, j'ai pensé à ça. Et il m'a dit, moi, en fait, j'ai compris qu'en fin de compte, tu resteras pour moi toujours la même personne. Le lien sera exactement le même. C'est juste ton enveloppe qui change. C'est ton enveloppe corporelle.
Exactement.
Et le lien est le même. Oui. Voilà. Et ça m'a vraiment fait plaisir. C'est pour ça que je voulais rebondir là-dessus.
Et vous trouvez votre père plus heureuse, cette phrase. Vous trouvez votre père plus heureuse, ouais.
Je pense que oui. Il y a de... On ne se voit pas assez pour que je le voie tout le temps, mais je pense qu'elle s'est trouvée. Elle a réussi à trouver... Enfin voilà, c'est vraiment elle fait ce qui lui plaît. Donc c'est pour ça que j'accepte aussi, j'estime que c'est pas ma vie. Ça impacte sur ma vie, mais c'est pas ma vie. Et à aucun moment je pouvais me permettre de dire c'est hors de question que tu deviennes une femme, tu resteras un homme parce que j'ai décidé que je voulais que tu restes un homme.
Oui, c'est pas de votre sort, c'est et ça. C'est une vraie intelligence de cœur.
Et même si ça allait m'impacter, même si ça allait être dur. Même si ça a risqué, ça se trouve, de tout remettre en question. Et voilà, j'estime que ce n'est pas ma vie et que...
Et ça va forcément faire écho à Clara.
Et tout de suite, Charlotte et Louis, mon fils, ont dit qu'ils voulaient être là le jour où je l'annoncerai à mes parents.
Ça a été le cas ?
Ça a été le cas, oui. Donc,
c'est un beau cadeau, ça.
Ah, et c'est un beau moment. C'est une extraordinaire preuve d'ouverture. Alors, c'est pas pour ça que c'est facile. C'est pas pour autant que c'est facile, mais...
Mais il y a l'amour et l'épreuve d'amour.
Et une preuve d'amour, et puis ayant perdu leur maman quelques temps avant, de pas être pris aussi entre l'enclume et le marteau. Parce que forcément, quand on fait une transition à 40, 50 ans, bah, on a des parents qui ont un certain âge, pour lesquels c'est pas forcément facile.
Ah oui, c'est vrai.
Et voilà... Et donc, Charlotte et lui ont vraiment exprimé ce soutien. Un, qu'ils ne voulaient pas être pris, justement, entre le marteau et l'enclume. Ouais. Et deux, que c'était mon choix, c'était ma décision. Et
en tout cas, je trouve que vous êtes une très belle femme. Oui. Très lumineuse, vraiment. Merci. C'est agréable de vous voir aussi épanouie. Et voilà.
Oui, ça libère. Oui.
Oui, alors moi, je ne vous relookerai pas, mais je laisse votre... Clara, évidemment, c'est un écho particulier, ce que vous venez d'entendre. Vous qui avez eu du mal à accepter la transition de votre père.
C'est-à-dire que moi, j'étais déjà investie dans le monde LGBT, donc je savais que je n'allais pas faire un blocage là-dessus. Mais par contre, effectivement, comme disait Marie, moi, mon père, c'était vraiment l'image de la masculinité, du rejet, du vernis à ongles, de l'hygiène, de prendre soin de soi. Mmh. C'était vraiment un cliché du bonhomme, quoi. Donc, effectivement, au début, j'ai eu l'impression que j'allais un petit peu perdre mon papa.
Bien sûr, ouais.
Et puis, avec les hormones en plus, forcément, les hormones qui arrivent, comme vous disiez toutes les deux, ça ressemble à un début de crise d'adolescence. J'avais l'impression d'avoir une petite sœur à la maison.
Expliquez-moi ça, cette histoire d'hormones, c'est-à-dire en quoi vous... Vraiment, cette crise d'ado, expliquez-moi concrètement.
En fait, il y a deux choses. Il y a à la fois l'euphorie qui est due au fait que la révélation vienne d'être faite. Donc on se dit, maintenant que je sais que ma famille va théoriquement m'accepter, je peux... commencer à rattraper le temps perdu. Donc, la personne qui fait sa transition veut que tout aille vite et elle est très difficile à suivre. Et ça, c'est démultiplié par la prise d'hormones parce que, enfin, je ne sais pas comment c'est pour les hormones masculines, mais pour les hormones féminines, la personne qui fait sa transition commence à avoir un comportement de jeune adolescente et donc des montagnes russes dans les attitudes. Enfin, je pense que ça fait la même chose aussi. Elle était très, très émotive. Elle pleurait beaucoup. Un rien l'énervait. Et pareil que Marie, j'avais l'impression de me revoir.
On a une bonne vision des femmes avec les...
J'avais 18 ans, j'avais l'impression que j'avais une petite sœur de 14 ans. Donc, c'était très bizarre.
Ou alors, ce n'est pas tout à fait la vision de la femme. C'est parce qu'on dose les hormones d'une façon un peu...
Vous avez raison, un peu costaud, ouais.
Voilà.
On va découvrir l'histoire de votre papa en images. C'est aussi une façon de lui rendre hommage. Vous nous avez ouvert votre album de famille. Ouais. Et donc, voilà votre père.
Le père de Clara, né en 1959. Petit, c'est un garçon loin d'être timide. Il ne se met en colère que lorsqu'on veut lui couper les cheveux. En grandissant, il se fait remarquer pour son ingéniosité et ne cesse de construire et créer des objets. solitaire, il se sent déjà différent et souffre de dépression à l'adolescence, si bien qu'il abandonne le lycée. Ce n'est qu'à 25 ans, 1984, que le jeune homme comprend enfin le cœur de son mal-être, puisque cette année-là, les débats télévisés s'animent de plus en plus autour de la notion de genre.
Cette femme, médecin de campagne dans le Loiret, est le père de 4 enfants. Bien qu'en 1979, elle ait décidé de mettre son corps en accord avec son esprit et de subir une intervention chirurgicale pour devenir une femme.
Pour le père de Clara, ce documentaire est une révélation. Au fond de lui, il se sent femme, mais le corps médical ne le prend pas au sérieux et il finit par enfouir son désir de transition. Il construit alors sa vie amoureuse et devient le papa de Clara en 1993. Infiniment complice avec sa fille, il partage sa passion pour les arts avec elle, notamment autour de la musique et surtout du piano. Mais au bout de 18 ans, il ressent le besoin de lui révéler son véritable moi. Clara apprend alors à connaître Anne-Lise, une version différente de son papa et surtout beaucoup plus heureuse.
Ça fait bizarre de l'avoir en si grand et puis de revoir tant de photos en même temps, parce que même si je vous ai envoyé les photos. D'habitude, quand je les regarde, je suis seule ou avec ma mère. C'est très émouvant d'en parler.
Pour nous aussi, c'est très émouvant, ces images.
Elle est belle, ton papa.
Merci beaucoup. Je trouve aussi, et puis elle est lumineuse, quoi. On lui a dit tout au long de sa transition, autant dans sa jeunesse, à l'époque où on disait il se faisait beaucoup remarquer pour son côté farfelu, pour son humour, etc. Mais là, l'esthétique commençait à compter. Et puis, on voyait que son rire était sincère, quoi. Son sourire était très profond.
C'est le mot qui vient d'être prononcé, c'est le mot lumineux. Ouais. Et c'est vraiment votre point commun, en fait. Ouais. D'être en accord avec soi, ça rend lumineux. Et c'est vraiment, quand je vous vois, c'est ce que je ressens. Et aussi le sourire d'Anne-Lise sur la dernière image de ce magnéto. Ouais. Et en effet, c'est une espèce de révélation.
Nous, au début, en tant qu'enfants, on a l'impression que notre parent se déguise pendant quelque temps. Et au fil des conversations et des observations, on se rend compte que le déguisement, c'est celui qui a été adopté pendant des décennies. Et comme disait Marie, on ne peut pas se permettre de lui mettre des barrières sur ça, parce que même si c'est un petit peu compliqué au quotidien, on voit à quel point notre parent est heureux. Et la phrase « mon père est enfin heureuse », je l'utilise tout le temps.
Parce que vous avez Il vous a fallu du temps, vous, pour accepter. C'est aussi un regret que vous avez, Clara ?
Il m'a pas fallu trop de temps pour m'accepter, mais...
Bon lapsus, ça,
il m'en a fallu pour m'acclimater au changement, parce que j'avais l'impression d'avoir affaire à une toute nouvelle personne et j'avais l'impression que je perdais une personne, en fait. J'avais vraiment l'impression de perdre mon papa, quoi. Ouais. Donc, ça s'est fait petit à petit, mais la chance qu'on a eue, c'est qu'on communiquait beaucoup, on était très proches, on philosophait beaucoup ensemble, on abordait beaucoup de sujets de société. Et du coup, en fait, même on parlait de sujets LGBT, donc je savais qu'elle était ouverte à ça, elle savait que j'y étais ouverte. Et du coup, ça s'est quand même fait plutôt naturellement, au fil des semaines, au fil des mois, même s'il y avait des petits couacs dans ma façon de la genrer, et qu'elle m'en voulait et qu'elle s'impatientait pour ça, ça finissait par disparaître. Parce qu'elle elle acceptait la manière dont je l'acceptais.
Hélène était où de sa transition quand elle est partie, Anne-Lise ? De quoi est mort votre père ?
Alors, elle est partie d'un cancer assez fulgurant qui l'a prise en quelques mois. Un cancer du poumon, exactement comme son père au même âge. Quand j'ai vidé son appartement, dans la boîte aux lettres, j'ai trouvé une lettre du chirurgien spécialiste de la chirurgie génitale qui disait « Madame, nous allons pouvoir vous accueillir dans quelques semaines pour faire les dernières retouches. » Donc en fait, tout était fait. Elle vivait sa vie de femme en société depuis déjà presque 5 ans. Et il n'y avait plus que quelques petits détails à régler, mais c'était rien en fait. Il n'y avait plus grand-chose à faire.
Est-ce que la rapidité du départ complexifie aussi les souvenirs que vous avez avec elle? C'est que vous vous dites finalement, j'ai eu mon vrai père pendant 5 ans.
Ouais.
Et j'ai peut-être perdu du temps avec son identité avant. Je ne sais pas si je suis très claire, mais est-ce que vous, le fait qu'elle soit partie comme ça aussi vite, a, à complexifier ce deuil aussi.
Moi, je n'ai pas perdu de temps parce que j'ai toujours été très proche de mon père. Mais par contre, j'ai eu l'impression de lui faire perdre du temps parce que cette impression, ce sentiment de ne pas être dans son corps, elle l'avait depuis l'enfance. Et pareil, elle l'a enfoui. Elle a fait une tentative de suicide à 17 ans parce qu'elle ne supportait pas son adolescence. Ça n'a pas marché. Ensuite, elle a mis ça entre parenthèses.
Mais vous y pouvez
comme
pour
toi,
rien, vous n'étiez même pas là.
Pardon ?
Vous n'y pouvez pour rien, vous n'étiez
non,
même pas là.
Non, j'y pouvais rien, mais du coup, moi, quand je suis née, en fait, papa pensait, enfin, se sentait pas prête ou prêt à l'époque à être père. Et puis, ma mère ne pensait pas pouvoir avoir d'enfant. Donc, je suis arrivée par hasard et mon père m'a acceptée. Mais quand on en a parlé au début de sa transition, en fait, je me suis posé beaucoup de questions parce que je me suis dit, en fait, si j'étais pas née, elle aurait peut-être pu faire sa transition plus tôt. Dans les années 80, c'était encore trop tôt, les médecins ne la prenaient pas au sérieux. Mais plus tard, dans les années 90 ou éventuellement début 2000, les choses ayant évolué progressivement, peut-être qu'il aurait pu se passer quelque chose. Et on lui avait recommandé d'attendre que je sois devenue une femme adulte, en fait, pour s'occuper d'elle. On lui avait dit de se consacrer à son rôle de père. Et elle l'a joué à fond et elle l'a joué très bien. Mais j'ai eu l'impression que c'était 18 années que je lui faisais perdre et qu'elle aurait pu faire sa transition avant, en fait.
C'est fou, cette culpabilité. Je n'avais pas du tout vu les choses comme ça.
Ouais.
Natacha ?
Oui, non, je ne pense pas. Moi, je pense qu'elle aurait pu ou pas. Vous savez pas, hein, c'est comme on a dit tout à l'heure, il y a un déclic, il y a un moment où ça peut se faire pour la personne ou pas. Et vous étiez aussi un cadeau pour elle. Vous étiez extrêmement proche, vous avez une relation très proche. Donc, vous pouvez pas vous reprocher finalement quand même quelque chose qu'elle a choisi dans sa vie.
Puis maintenant, je me le reproche plus. On en a beaucoup parlé. Et puis au fil des années, comme je voyais la transition se faire, je la voyais littéralement se réparer. Donc cette culpabilité a diminué et puis au bout de quelques années elle m'a avoué que en fait dans un autre contexte si elle n'avait pas eu tous ces soucis de genre et de dysphorie elle aurait aimé avoir plusieurs enfants donc elle n'en a pas eu plusieurs mais les deux choses les plus importantes de sa vie c'était de se réaliser en tant que femme et de voir son ou ses enfants se réaliser aussi.
Et ben voilà
donc finalement elle a eu tout ce qu'elle voulait
bah,
tout ce
dont vous elle étiez avait un besoin cadeau.
Et ça m'aide à déculpabiliser.
Vous l'avez encouragé jusqu'au bout, vous l'avez soutenu jusqu'au bout, votre...
Je l'ai accompagné jusqu'au bout quand je l'ai su, même si je me trompais encore des fois sur le genre, sur le surnom, etc. Quand il a fallu faire une lettre au tribunal pour valider le changement d'identité, il fallait que plusieurs proches témoignent en prouvant qu'on la connaissait sous cette identité-là et que c'était en accord avec cette personne. J'en ai fait 7 pages. 7 pages pour expliquer que je voyais enfin mon père heureuse, je la voyais s'accomplir et que même si ça faisait pas longtemps qu'elle s'appelait Anne-Lise, à partir du moment où sa fille l'acceptait, il n'y avait aucune raison de lui mettre des bâtons dans les roues. Donc c'est Anne-Lise, c'est comme ça, vous n'avez même pas votre mot à dire en fait.
Qu'est-ce que vous ressentez, Charlotte, quand vous entendez Clara et vice-versa ?
Je pense qu'il y a le recul qui fait... Parce que dans ce qu'elle dit, c'est vrai qu'au début, c'était pareil. C'était voilà, les « il » à la place des « elle » encore. Tout ça, ça reste très compliqué.
Bien sûr.
Et du coup, c'est vrai que je pense que, au fur et à mesure... moi, je vois... J'arrive plus à voir mon père comme avant, mais j'arrive pas encore à voir Florence totalement.
Mais c'est qu'une question de temps.
Ouais.
Parce que moi, même si j'ai perdu mon père au bout de quelques années, ça a vraiment été très progressif. Et dans 5 ans ou 10 ans, je suppose que Florence sera toujours là, je te le souhaite. Et t'en seras plus du tout au même point. Ouais. Et tout ça, ce sera des vieux souvenirs. Alors moi, j'utilisais... Il m'arrive encore, avec ma mère qui était restée très proche de mon père, d'utiliser papa ou il. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on s'autorise, qu'on s'autorise quand on n'est que toutes les deux et dont on culpabilise quand même.
Ouais.
Et on se corrige quand même de plus en plus, même 5 ans plus tard.
Ça fait du bien de voir d'autres personnes qui sont dans sa situation, parce que c'est quand même rare.
Moi,
Marie, Charlotte, non, ça fait du bien.
J'en ai cherché sur Internet,
parce
que dans les émissions et sur Internet, je voyais beaucoup de témoignages de personnes trans ou de leurs parents.
Mais
en fait, j'ai été incapable de trouver
le témoignage d'un enfant, d'une personne transgenre.
C'est pour ça qu'on est là.
Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai commencé à écrire un livre là-dessus, pour donner le point de vue des enfants de personnes transgenres, parce que bah, pour aider les personnes qui font leur transition et leurs proches à bien le vivre.
Ouais.
Parce que c'est vrai que c'est vraiment un point de vue qu'on n'entend pas assez, alors qu'il faut en parler. Et merci de faire cette émission.
Les gens s'inquiètent aussi beaucoup ouais, pour c'est les ça. Enfants. Ils s'inquiètent vraiment pour vous.
À juste titre. C'est quand même
c'est un traumatisme.
Un rien impactant pour
eux. Qu'est-ce que vous retenez de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, Natacha ?
Une belle leçon de tolérance et de générosité.
C'est vrai.
Et puis surtout, vous l'avez tous dit, il faut du temps. Et c'est le temps.
Du temps indulgent avec soi-même.
Il faut savoir qu'il va falloir du temps pour apprivoiser cette nouvelle relation, cette nouvelle image, mais que ça avance.
Et puis, on n'est pas au même rythme. Quoi. Voilà, la personne,
c'est bien le problème. Oui,
c'est
ça.
Sa transition, ça fait des décennies qu'elle attend. Donc forcément, quand le coming out est fait, elle veut rattraper le temps perdu. Oui.
Mais et pas nous, pour les enfants.
Nous, on est censé s'adapter à ça, alors qu'on le sait depuis 2 minutes. C'est complexe et ça nécessite vraiment une communication mutuelle. Oui,
Je crois que c'est le point, le décalage.
Oui, c'est exactement
ça. Le décalage temporel.
Ouais.
Nous, effectivement, ça fait des années qu'on se trimballe ça. Alors, même si, moi, j'ai, à une certaine époque de ma vie, vers 17 ans, j'ai mis ça sous le tapis, puis c'est resté pendant des années, jusqu'en 2008, ouais, c'est ça.
Mais pour les enfants, c'est tout nouveau, en fait.
C'est ça.
Il y a ce décalage temporel qui fait qu'au moment où la parole se libère...
On n'en peut plus, on se dit maintenant, il faut que ça aille vite, alors que pour les enfants, c'est...
Ah ben, ça leur
tombe. C'est pour ça que c'est bien de disséminer des indices, en fait, petit à petit, d'amener le sujet... avant de faire ton coming out, de commencer à mettre des petits indices pour voir un peu, pour anticiper un peu
la réaction. Profil Instagram, ça s'appelle un petit indice.
Oui.
Finalement,
au final, ça a permis à mes enfants de travailler entre eux, finalement.
Ouais, avant d'en parler, donc finalement.
Avant de leur en parler. Et c'est vrai que sur le coup, je me suis dit... Mais merde, t'es trop conne. Enfin voilà, je ne savais pas. Et tout de suite après, mais finalement, je me suis dit, mais c'est bien aussi, parce qu'ils ont pu faire leur.
Et ça les a. Et puis c'est comme ça que c'était écrit.
Puis t'as essayé.
J'aime bien cette phrase du moment que papa est heureuse, du moment que maman est heureuse. Merci beaucoup pour cette leçon de tolérance, pour reprendre vos mots. Et je pense que vraiment, moi aussi, ça m'a beaucoup interrogée et dans le bon sens. Et on retient beaucoup cet amour, cette envie de bien faire, cette lucidité aussi de dire c'est pas simple, mais on veut y arriver. Et on s'aime. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à tous. Merci. Je suis persuadée que cette émission va beaucoup circuler sur les réseaux. D'ailleurs, vous pouvez toutes les retrouver sur la plateforme de France Télévisions. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci Natacha. Bel après-midi. Aussi. Merci de votre confiance.
Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Vous avez choisi un métier en rapport avec la mort et ça n'est pas toujours simple à assumer. À l'inverse, vous vous êtes forgé une carapace pour éviter que votre quotidien devienne trop lugubre. Pour notre émission, vous ou votre fille avez fait du mannequinat et vous avez découvert un univers bien moins glamour qu'en apparence. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.
Ben, je suis très contente d'avoir fait cette émission parce qu'on n'entend pas souvent le point de vue des enfants de personnes transgenres et ça permet vraiment de faire le lien en fait et d'aider, je pense, j'espère en tout cas, les personnes transgenres et leurs enfants à bien vivre leur transition.
Voilà, j'espère que ce podcast de Ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur France.tv.